Vous écoutez l'épisode 129 du CKB Show, votre rendez-vous quinzomadaire qui parle de Google, de Chrome OS, des Chromebooks et tout ce qui gravite autour. Aujourd'hui, nous nous penchons sur une question brûlante. Peut-on réellement travailler avec un Chromebook et les outils de l'univers Google à 100%? Face au scepticisme qui affirme que ces outils ne sont pas faits pour un travail à temps plein, nous explorons les possibilités actuelles, capacités, applications, intégration dans les milieux professionnels et éducatifs. Nous démêlons le vrai du faux et partageons des astuces pour tirer le meilleur de cet écosystème. Que vous envisagiez d'acheter un Chromebook pour vos prochaines machines principales ou que vous soyez simplement curieux, ce débat est fait pour vous. Alors restez à l'écoute. Je suis Nicolas et je suis accompagné ce soir d'Olivier. Bonsoir Olivier, comment vas-tu?
Je mets le son et je dis bonjour. Ça va? Et toi?
Eh bien écoute, très très bien. Surtout qu'on a un programme hyper intéressant parce que ce soir... Alors, une fois n'est pas coutume, ce soir on a décidé d'être plusieurs, à deux on est déjà plusieurs, mais cette fois on sera accompagné d'une personne qu'on apprécie énormément à la rédaction et au CKB Show, parce que je parle, et tu le sais très bien, d'Alexandra. Bonsoir Alexandra, comment vas-tu?
Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde.
Bah oui, bonsoir pour nous et bonjour pour toi.
Voilà.
Comment vas-tu?
Très bien, merci. Merci de l'invitation.
Eh bien, c'est avec plaisir, surtout que cette invitation, elle nous vient parce que tu as upgradé, tu es passé au niveau 2 de ta vie professionnelle. Donc, comme les Pokémon, hein, tu as grandi et c'est génial, on t'a libéré de la Pokéball et maintenant, cette fois, tu vas encore être plus performante et plus puissante et tu vas nous partager ton expérience, ton expertise sur plein d'outils que tu utilises au quotidien. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant que ça soit toi qui nous en parle. Alors avant d'aller plus loin, on va faire un petit coucou à Cyril. Salut Cyril, salut Hervé, salut Didier, salut Alain, salut Stéphane, salut Xbox Space, qui ai-je oublié? Et on va faire forcément un petit salut, un gros salut à Jean-Luc. Jean-Luc qui est notre soutien sur YouTube ce soir avec un super sticker qu'il nous a offert avant même que l'émission ne commence. Donc merci à toi de nous soutenir tout le temps comme ça, tous les 15 jours en fait. Il est là et sur le salon Discord, il est encore plus présent que ici. Merci beaucoup pour ton soutien, ça fait un énorme plaisir. Et puis, bonsoir Aymeric. Alors, on voit des nouvelles têtes et c'est super intéressant. Je suis très content de voir toutes ces personnes arriver. Alors, n'hésitez pas à aller nous poser toutes les questions que vous voulez. Tous les sujets sont intéressants. Évidemment, il faut qu'ils soient centrés autour du travail sur les outils de Google et les Chromebooks, enfin les produits qu'on peut utiliser autour d'un Chromebook. On en a beaucoup. Puisque Jean-Luc nous fait un super sticker sur YouTube, vous pouvez faire comme lui et nous soutenir sur YouTube avec des super stickers, enfin plein plein de choses comme ça. Mais également, si vous voulez qu'on continue ces épisodes de haut vol, hein, il faut le dire, hein, parce que le conducteur, vous allez le voir, il est hyper intéressant, vous pouvez aller directement sur patreon.com/mychromebook et nous soutenir à hauteur de 1,50€. C'est même pas un café, hein, donc juste un petit café, on se le partagera à trois si vous voulez. Moi, je prends le café, je donne le sucre. Qui veut le petit gâteau, je vous l'offre. je n'aime pas ça.
Et si c'est le petit pop-corn avec du chocolat autour, là, ça je veux bien.
Allez, ça me fait plaisir. merci à vous en tout cas d'y songer et d'y penser. Et puis si vous pouvez pas, vous n'avez pas l'envie de nous soutenir financièrement, vous pouvez partager l'épisode et tout ce qu'on vous propose comme contenu sur les différents réseaux sociaux, X, Thread, Blue Sky et qui sait encore. Et peut-être des fois partager simplement à vos amis via un email, puisque ça existe encore les emails, hein, d'ailleurs.
Oui. Et comme le dit Laurent, les petits pouces en l'air aussi sur YouTube, ça fait du bien. Les commentaires, n'hésitez pas à mettre des commentaires et à commenter les commentaires et à répondre aux commentaires, parce que ça donne vraiment beaucoup de visibilité à la chaîne. Et donc, ça nous permet de toucher des nouvelles personnes, donc éventuellement de faire grossir la communauté, quoi.
C'est ça, et ça c'est excellent. Et puis, si vous avez des questions auxquelles nous n'aurions pas abordé pendant l'épisode, vous pouvez aller simplement sur le salon Discord. Vous verrez, on est de plus en plus nombreux. Je crois qu'on n'est pas loin des 900, je crois, hein. Je ne suis pas certain à 100%, mais on ne doit pas être loin de ça. Donc, il y a toujours quelqu'un qui est là pour vous répondre. Les portes sont toujours ouvertes et la lumière l'est toujours aussi. C'est de l'électrique, mais des panneaux solaires, tout ça. Hein. Pas de problème chez nous, hein. Tout va bien. Vous rentrez, c'est tout bénef. Hein.
Oui, et puis sur le Discord, il y a la Dream Team, il y a Jean-Luc, il y a Didier, il y a Laurent, qui sont toujours là, les premiers à répondre dès que vous posez la moindre question sur les Chromebooks. Ils se font un plaisir de répondre rapidement et efficacement.
Ouais, et c'est top. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben Alexandra, je te vois toute timide derrière parce qu'évidemment, on va parler de toi aujourd'hui et c'est toujours un peu étonnant de parler de soi-même. Donc, je ne sais pas comment toi, tu le prends, mais je suis très content en tout cas de ton évolution, comme si j'avais fait quelque chose moi. Mais non, j'ai rien fait, mais j'en suis quand même heureux. Justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton nouveau statut et peut-être pourquoi tu en es arrivé à changer de statut, si tu as envie de nous le dire, évidemment?
Absolument. J'œuvrais depuis, ça fait 20 ans que je suis en éducation. Donc, j'accompagnais, j'ai passé de statut de professeur, d'intégrer la technologie avec les élèves, à aider les enseignants à intégrer la technologie. Maintenant, je me lance à pouvoir aider tout le monde à intégrer la technologie. Donc, j'ouvre les horizons encore plus, à aider des travailleurs autonomes, aider des organisations, des organismes à but non lucratif et autres. Donc, différents volets. Je fais de la consultation de projet, des gens qui veulent, par exemple, implanter, qui voudraient faire, par exemple, le saut vers Google Workspace alors qu'ils utilisaient autre chose. Mais comment on fait ça? Qu'est-ce qu'on met en place? Qu'est-ce qu'on a à s'approprier? Ça peut aussi être du coaching, donc aider les gens un à voir comment évoluer dans leurs compétences numériques. Et bien sûr, je donne encore de la formation sur divers outils, dont les outils de Google Workspace.
Donc forcément, la question suivante, tu la vois venir, pourquoi tu as choisi spécifiquement les outils Google Workspace alors qu'on a des équivalents chez Microsoft, chez peut-être Absolument. Apple, et ou dans le monde libre avec LibreOffice et toutes les applications équivalentes. Pourquoi alors Google Workspace?
Premièrement, on va souvent vers des outils qu'on connaît, qu'on utilise déjà, qu'on est déjà efficace. Quand on se lance à son compte, on veut gagner en efficacité rapidement. Ce sont des outils que je maîtrisais bien. Je les ai choisis aussi pour leur interopérabilité qui fonctionne très bien. Depuis des années, dans le milieu de l'éducation au Québec, on utilise un peu les deux. Donc, je pouvais être invitée dans un Microsoft Teams où on me partageait un Google Docs pour collaborer. On naviguait facilement d'un à l'autre. Donc, je savais déjà que c'était une facilité de ce côté-là de pouvoir l'utiliser. Côté économie, je suis allée... les prix sont comparables, honnêtement, d'une plateforme à l'autre. Mais Google m'offrait vraiment tous les outils dont j'avais besoin et que je connaissais bien déjà. Donc, je suis aller avec un compte qui s'appelle Business Standard. Là, il y a beaucoup de comptes hein, de différents. On peut avoir un compte individuel, nos comptes Gmail personnels individuels. On peut aussi passer à un compte payant individuel. Et là, il y a les comptes entreprise, donc tout la suite business, c'est tout. Et il y a des comptes éducation. Moi, c'est les comptes que j'avais avant. Là, je suis passée à un compte qui s'appelle Business Standard, le de base pour commencer, pour avoir accès à tous mes outils.
Et justement, tu as quoi dans ce pack business standard? Tu as quel espace de disque de disponible?
Je ne sais pas par cœur, mais c'est plus que le côté individuel. Il faudrait que j'aille voir en ligne. Mais on nous amenait ce côté-là. J'aurais pu y aller avec un individuel aussi. Pas le compte Gmail là, personnel gratuit avec le stockage supplémentaire. Vraiment un compte où je peux ajouter mon adresse de nom de domaine. Ce que j'aimais du Business Standard, c'est la possibilité de grandir. Donc, éventuellement, je vais pouvoir ajouter un autre utilisateur. Donc, si, par exemple, je veux, je ne sais pas moi, embaucher quelqu'un qui va faire ma gestion des réseaux sociaux, je peux, par exemple, leur créer un compte et là, on va collaborer. Cette personne va avoir une adresse avec mon nom de domaine et tout. Il y a la possibilité aussi de gérer des appareils. Donc, de pouvoir, par exemple, acheter 2-3 Chromebooks, les prêter à des usagers, mais pouvoir gérer les mises à jour, les utilisations des outils. C'est quelque chose que je suis en train de développer côté formation de mon côté. Là, dans 2 semaines, j'ai une formation de 2 jours de bootcamp pour passer ma certification Chrome OS qui, en passant présentement, est gratuite jusqu'à janvier 2025 si on veut aller se certifier pour administrer justement les consoles, là, pouvoir vraiment venir jouer dans l'interface. Donc, parce que ça m'amenait ça, que ce n'était pas une grosse différence de prix, je suis allée avec ça, même si c'est peut-être plus que ce que j'ai besoin en capacité de stockage et de gestion, mais je voulais avoir la possibilité tout de suite de pouvoir grandir sans avoir à rechanger plus tard.
Ouais, nous, sur mychromebook.fr, donc on est sur Google Business Standard également, avec le nom de domaine mychromebook.fr, évidemment, et des adresses, donc c'est une adresse Gmail déguisée finalement, hein, puisque derrière, je l'utilise comme avec Gmail, j'ai oui. L'accès au SMTP, à l'IMAP, enfin exactement la même chose. L'avantage, c'est qu'on peut administrer donc plusieurs adresses mail. Moi, j'utilise pas mal les alias également, parce que ça évite de donner son adresse principale et de cibler via la console d'administration les par exemple presse@mychromebook.fr contact@info@ainsi de suite.
Oui, voilà.
Et ça évite de donner la principale et ça me permet ensuite de filtrer les différents mails qui arrivent sur ma boîte mail principale, hein, finalement à la fin ils arrivent tous au même endroit, c'est un entonnoir qui fait que ça arrive au même endroit, mais l'avantage je sais directement d'où provient le mail et comment ils ont eu mon adresse email pour échanger avec moi. Je trouve ça vraiment super sympa. Je vais quand même être ce soir, j'ai décidé d'être pas sympa avec Google, donc c'est moi l'avocat du diable, d'accord. Ça c'est fait. La seule chose que j'ai trouvé étonnant, puisque auparavant le site web était utilisé, enfin je l'hébergeais de moi-même d'un côté, j'avais ma propre adresse email perso et je pouvais créer autant d'adresses email que je voulais puisque le nom de domaine m'appartient. Avec Gmail c'est pas le cas. Je peux créer autant d'alias que je veux, mais pas autant d'adresses email que je veux gratuitement. Hein, je précise.
Il faut payer pour chaque utilisateur supplémentaire. Effectivement.
C'est ça. Et donc pour une entreprise, c'est pas forcément très lourd. Pour une petite structure, t'es vite à 20 balles de plus par mois. Donc sur l'année, c'est quand même une adresse mail qui te coûte 240 €. Il faut en avoir l'utilité. Si on s'en sert pas, évidemment, c'est trop cher. Donc après, c'est avoir les besoins que tu as, si les alias suffisent ou pas. Et moi, avant, j'avais autant d'adresses mail que je voulais. Et ça m'a un peu gêné le jour où je suis arrivé sur Google Business, où je me suis demandé comment faire. J'ai passé longtemps avant de comprendre qu'il fallait juste que je sorte le portefeuille pour que ça marche, en fait.
Donc, ouais.
Un peu dommage. Justement, on parle de passage d'un outil à un autre. Pourquoi la suite Google Workspace pour toi? Tu as traité tout ce qui est usage de collaboratif, si tu as de nouveaux collaborateurs qui viennent travailler avec toi ou avec les personnes avec qui tu travailles en externe, hein, qui ne sont pas liés directement à l'entreprise, mais qui sont des clients, hein, finalement. Et comment tu Interpol, non, ça c'est la police, c'est pas la même.
Non, pas la même chose.
C'est pas la même. Comment tu intègres l'ensemble dans ton travail au quotidien?
Bon, on peut déjà travailler toute la suite. Microsoft peut se travailler directement dans Google Drive sans problème. C'est quelque chose que je faisais déjà. On m'envoyait un document Word. Je pouvais le modifier directement dans Drive et tout. En ligne, ben on peut facilement participer à des rencontres dans Teams. On peut aller dans Zoom, on peut aller dans toutes les autres plateformes. Donc, quand on m'invite à un webinaire, ben je peux très bien participer tout de même avec mon compte et tout. Donc, il n'y a rien de tout ça qui était un obstacle. Il faut dire que j'utilise beaucoup des outils en ligne. J'ai réalisé avec les années, j'ai eu des PC, j'ai eu un Mac, mais je me rendais compte que tout ce que je faisais, c'est ouvrir Chrome et aller en ligne sur la panoplie d'outils. Donc, c'était déjà côté opérabilité, une facilité. Je dirais que le seul obstacle que j'ai rencontré, c'est parfois dans les configurations, par exemple, de Microsoft. Il y a certaines institutions qui ne vont pas permettre la participation à quelqu'un qui est dans un mode invité, parce qu'on peut se créer un compte Microsoft gratuitement avec notre adresse mail. Donc, c'est ce que j'ai fait pour utiliser, pour pouvoir me connecter, mais sans nécessairement utiliser la panoplie d'outils, mais d'y avoir accès quand même. Mais parfois, ça arrive que dans certains groupes, je serais pas autorisée à participer dans un groupe Teams parce que la console d'administration de la personne a fait ces choix-là. Donc, ça peut arriver. Ça m'est pas trop arrivé, mais c'est quelque chose qui peut arriver.
Oui, j'allais dire que c'est des cas quand même relativement rares parce que finalement, les entreprises auxquelles tu vas t'adresser ont aussi pour objectif de pouvoir communiquer avec tout le monde. Donc, exactement. C'est rare que la limite, en tout cas sur Teams, soit mise. C'est peut-être
ça m'est arrivé quelquefois avec des grosses organisations qui voulaient limiter, par exemple, certains accès à des canaux dans Teams ou autres. Et là, on n'avait pas... des accès, mais des fois, ils vont mettre des accès avec une double authentification obligatoire ou autre, mais c'est assez rare. Honnêtement, j'arrive à naviguer sans problème.
Dans le chat, on a Méziana qui nous dit, à mon avis, il manque un SGBD, une base de données, dans Google Workspace comme Access chez Microsoft, ou alors j'ai mal vu. Est-ce que tu as une réponse pour Méziana ou sur ce sujet-là ou pas?
Non, Microsoft, moi, c'est pas quelque chose que j'utilise. Ouais. Pour l'instant, moi, pour mes besoins, ça répond. Mais effectivement, il y a quelques petites différences là, avec Microsoft, mais ça dépend vraiment de nos besoins. J'ai un conjoint très, très Microsoft qui vous dirait que Power BI, c'est la vie et que Google n'a pas d'équivalent et que, mais pour moi, j'ai des tableaux de bord suffisants, ça dépend de nos besoins, je dirais. Donc oui, c'est possible, comme le titre de l'épisode, c'est possible de travailler 100%. Après, ben, ça dépend vraiment de nos besoins. D'autres vont vous dire, ben, j'ai besoin absolument de tel logiciel qui est obligatoire par mon employeur. Ben là, peut-être que ça fonctionnera pas, mais pour mes besoins, j'y arrive très bien à 100% en ligne.
Il y a Adrien qui, d'ailleurs, je lui fais un petit coucou Adrien, merci d'être là, qui nous dit que la plupart des apps sont en ligne maintenant en Chrome, donc c'est top, c'est le top du top. Donc effectivement, de plus en plus d'outils sont utilisables uniquement en ligne, ce qui permet à un Chromebook ou n'importe quel ordinateur finalement de devenir un Chromebook puisque tu utilises Chrome et d'accéder à des outils, que ça soit la suite. Alors je ne sais pas si Microsoft avec la suite Office 365, on a accès à cette fameuse base de données Access. Ça, je pense
pas certaine,
pas.
Je suis
pas
teste.
Sûr. Mais en tout cas, sur Google, enfin, il y a des outils qui nous permettent d'avoir des bases de données, ceci dit.
Absolument.
Mais voilà, donc oui, effectivement, on a de plus en plus de possibilités de collaborer, de travailler à distance ou en présentiel avec des utilisateurs de tous bords. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on n'a plus de limite, on n'a plus cette limite du système d'exploitation. Pour la plupart du temps, on peut utiliser tous les outils sur n'importe quel système d'exploitation. Donc, que ça soit un produit Apple, un produit Microsoft ou un produit Google, aujourd'hui, c'est peut-être pas là-dessus qu'on va se pencher pour se dire on a besoin de tel ou tel appareil, mais plus d'usage bien particulier, en tout cas, comme peut-être de la base de données particulièrement. Effectivement, peut-être que Chrome OS, c'est pas le bon plan, peut-être. Et j'essaierai de prouver que si. Ah non, j'ai dit que j'étais l'avocat du diable aujourd'hui.
Et puis, pour répondre par rapport à Microsoft, oui, Access fait partie de du pack global. Donc, effectivement, que Google ne propose pas. Après, est-ce qu'il n'y a pas des gestionnaires de bases de données comme ça directement en ligne? Tout à l'heure, en off, on parlait de Notion. qui est finalement une base de données. Donc, tout dépend aussi de l'objectif que l'on a dans l'utilisation de la base de données elle-même. Est-ce qu'on ne peut pas retourner le problème en se disant, bon, qu'est-ce que je veux faire de ma base de données? Et finalement, quels sont les outils qui sont disponibles en ligne qui pourraient rendre le service, même si ce n'est pas une base de données qu'on va fabriquer soi-même. Donc, c'est vrai que, bon, ça c'est... Effectivement, il n'y a pas de gestionnaire de base de données directement intégré dans la suite Google.
Alors,
souvent, effectivement, quand il n'y a
Office...
pas... Pardon.
Pardon. Mesiana nous confirme que sur Office 365, on a accès à Access pardon, gratuitement. Donc voilà, le problème est réglé. Hein. On peut utiliser Office 365 sans aucun problème sur nos Chromebooks. Donc c'est plutôt sympa.
On peut souvent trouver effectivement là, des outils tierces qui sont compatibles, parce que ça, c'est l'autre avantage. Il y a beaucoup de choses qui sont compatibles avec la suite. Donc, des fois, ce n'est pas directement disponible dans la suite, mais on trouve un outil qui est compatible, qui s'harmonise parfaitement. J'en ai là que je vais nommer tantôt et qui fonctionne très, très bien avec la suite et qui s'intègre dans la suite. Donc, des fois, on trouve, même si ce n'est pas disponible directement.
Et du coup, vu que tu es à ton compte, solopreneur, c'est ça qu'on,
oui.
qu'on dit entrepreneur, nous on dit micro-entrepreneur, j'imagine, chez nous en France, c'est la même chose.
Travailleur autonome qu'on dit aussi, voilà, donc à voir, voilà.
Donc, tu me disais auparavant que tu voyais de plus en plus de Chromebooks arriver en entreprise. Est-ce que tu as une explication? Comment tu as... imaginer qu'ils puissent être des outils intéressants pour les entreprises?
Bien, en fait, côté gestion des appareils, si on pense à gérer des flottes d'appareils, quand on en a 5 000, 50 000 à gérer, qu'on partage avec des employés, qu'on doit les récupérer, qu'on doit faire la gestion des mises à jour, la gestion des paramètres et tout, ce sont des outils qui sont très, très simples à gérer avec une console qui permet de paramétrer comme on veut, mais c'est très simple. Donc, je pense que ça fait partie des choix, le coût.
C'est même le gros point fort des Chromebooks et de l'utilisation des Chromebooks en entreprise, c'est la gestion de la flotte qui est juste d'une facilité épatante par rapport à ce qu'on peut trouver là pour le coup du côté de chez Microsoft. Alors Apple, je ne sais pas, mais en tout cas du côté de chez Microsoft ou des autres suites qu'on va pouvoir trouver dédiées aux entreprises en tout cas. Là pour le coup, on a un outil qui est hyper basique, hyper simple et redoutablement efficace.
Qui évite beaucoup d'erreurs humaines aussi, puisqu'on n'est pas dans des téléchargements de ci et de ça. Donc, on évite beaucoup aussi de problématiques. Nicolas, tu parlais du dernier épisode en cybersécurité. Ben, on enlève beaucoup d'irritants côté gestion des appareils de ce côté-là. La console d'administration est simple d'utilisation aussi. Donc, je vois des petites organisations qui ont à gérer peut-être une centaine d'appareils. Là, donc, ils n'ont pas nécessairement une équipe de gestionnaires en TI et tout avec des analystes qui vont regarder tout ça. Des fois, je le vois en enseignement, là, des fois, c'est un enseignant qui gère la console d'administration. Ce n'est pas nécessairement des gens en technicien informatique et autres. Et c'est simple à administrer. C'est facile de comprendre avec une base, là, mais c'est facile de comprendre la console. Donc, je crois que ça, c'est un choix. L'autre choix, ben, c'est le coût. Le coût de l'appareil est intéressant, on s'entend. Mais le coût qu'on sauve aussi de réparer l'appareil, de gestion et tout, vient changer la donne aussi. Je crois que la durée aussi, là, le 10 ans de support vient changer la donne aussi. Bon. Renouveler des flottes d'appareils quand on a beaucoup d'appareils, c'est quelque chose. Là, je l'ai vu beaucoup dans des établissements scolaires qui, là, tout à coup, se retrouvent que 50 % de la flotte d'appareils doit être remplacée. C'est un coût énorme. Donc, si on a une durée de vie plus longue. Donc, je pense que c'est toutes des raisons qui font que certaines organisations font le choix de basculer vers les Chromebooks.
Oui. Ben, c'est des appareils assez impressionnants. Hein. Une fois entré dans une flotte, l'avantage, c'est que pas de problème de sécurité, une administration hyper simple, que ça soit du côté DSI que du côté utilisateur, hein, puisque intégrer un nouveau Chromebook dans une flotte, c'est d'une simplicité déconcertante. Le désintégrer dans une flotte, je ne sais pas si ça se dit, le retirer de la flotte, c'est aussi simple que de l'intégrer. Et puis pour l'utilisateur, peu importe, il prend n'importe quel appareil, il se log et il retrouve la totalité de ses données sans même se soucier d'où elles étaient, comment elles sont importées. C'est C'est son appareil de toute façon à partir du moment où il l'utilise et dès qu'il va le remettre à une autre personne, cet appareil va être à nouveau disponible mais pour quelqu'un d'autre et ça va devenir l'appareil d'une autre personne. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on n'a pas toutes ces problématiques de gestion d'utilisateur qu'on peut retrouver sur un Microsoft ou peut-être sur un Apple. Là vraiment tu peux prêter ton appareil et ça devient l'appareil de la personne qui l'utilise. Alors je vais faire une pause apparemment parce que ça fait déjà 20 minutes me dit-on dans l'oreille. Et on remercie chaudement Mister Robot qui nous fait une petite pause café. Merci pour ton super sticker sur YouTube. Donc si comme Laurent, comme Jean-Luc, vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez le faire soit sur YouTube, soit directement en nous soutenant sur patreon.com/mycronbook. Encore une fois, c'est l'histoire d'un petit café. On va dire que le café, c'est un peu la vie pour moi. Donc m'offrir un café, c'est un peu me donner une expérience de vie plus grande. Donc allez-y. N'hésitez pas à aller nous soutenir et surtout partager. Tous ceux qui sont là, n'hésitez pas non plus à revenir après la fin de l'épisode, si vous restez là, pour nous laisser un commentaire sous la vidéo YouTube, comme le disait très bien tout à l'heure Olivier. Ça nous aide beaucoup, non pas forcément à remonter dans les classements, mais à montrer aux nouveaux qui viendraient visualiser le podcast que finalement, il a un intérêt, qu'il est bon pour eux, parce qu'il y a des gens comme vous qui y participent pour le faire grandir au quotidien et qu'ils y trouveraient peut-être leur intérêt à venir nous écouter un petit peu. Donc allez-y, partagez, laissez un petit commentaire, un pouce en l'air, ça fait pas de mal. Et puis nous, ça nous fait plaisir en tout cas. Merci.
On a un témoignage de L. Je connais, c'est un drôle de nom. Je regrette que Sheets ne permette pas de partager des fichiers en XLS parce qu'effectivement, il y a un logiciel de caisse qui ne peut importer que des XLS et pas des XLSX, donc en format Microsoft. Effectivement, ouais, ça doit être un problème. Je ne vois pas de solution à peu près a priori. Je regarderai, mais je ne vois pas de. À moins de trouver un logiciel qui permette de changer le format du fichier, ça ferait un intermédiaire. Est-ce que du coup, ça ne créerait pas des erreurs de toute façon? Mais effectivement, on va trouver des cas d'usage comme celui-là où on va pas. Où le Chromebook ne correspondra pas aux besoins. C'est bien dommage. Mais oui, la solution, je la vois pas en tout cas comme ça. Et puis, effectivement, Mesiana, un autre avantage de Chrome OS, c'est la facilité d'utilisation pour l'utilisateur. Et ça, on en parle suffisamment souvent, effectivement. Ça paraissait tellement évident.
C'est ça.
Je fais souvent la blague que j'aimerais me promener avec une clé Chrome OS Flex. Et quand j'aide, par exemple, mon père qui a passé 80 ans avec son ordinateur, qui a toujours téléchargé quelque chose qu'il ne devrait pas avoir téléchargé, j'aimerais mettre la clé subtilement puis lui dire que c'est le nouveau Windows et mettre Chrome son ordinateur. Ça me simplifierait la vie parce que de toute façon, il va sur YouTube, il prend ses courriels sur Gmail. Donc, ça serait fort suffisant. Donc, j'imagine effectivement que pour des techniciens aussi en entreprise, ça doit être plus agréable de régler les problématiques.
Il y a peut-être moins de trucs à régler, surtout.
Oui, peut-être. Moins de questions et moins de « je ne sais pas sur quoi j'ai cliqué, mais…
Ouais. » Donc... Il y a eu… installé, je ne sais pas d'où ça sort.
Je ne sais pas, oui.
Il y avait eu, il fut un temps, je ne sais pas si vous vous souvenez, Google avait sorti les Chrome Sticks. C'était une clé HDMI, comme une Chromecast, comme les premières Chromecast, une clé très longue, qu'on branchait directement en HDMI sur n'importe quel appareil. Et c'était en fait une tour portable, un ordinateur portable, mais juste dans une clé HDMI, une toute petite clé. Donc tu aurais pu peut-être, tu vois, tricher, brancher sur l'écran de l'ordinateur. Oui. Et c'est dommage que Google n'ait pas continué. Ce serait bien d'avoir un système qui fonctionne comme ça, un système bootable directement sur n'importe quel ordinateur. Alors, on l'a avec Chrome OS Flex, hein, mais après, il faut l'installer.
Ça ne se ferait pas subtilement. Là. Il y a quand même quelques étapes à faire. Mais Chrome OS Flex est une autre raison pourquoi certaines organisations passent à Chromebook, parce que ça permet de récupérer des flottes d'appareils aussi, de donner une durée de vie, d'extensionner un peu en basculant le tout, en incorporant ça dans la console d'administration. Donc, plusieurs arrivent à récupérer des appareils de cette façon-là.
Et on l'a vu, j'ai fait un article, enfin je ne suis pas le seul hein, d'ailleurs, mais sur la fin du support de Windows 10 courant de l'année prochaine, où Chrome, enfin Google, a sa carte à jouer en mettant en avant Chrome OS Flex pour sauver de la déchetterie plusieurs millions d'appareils dans le monde. Ah, évidemment, on m'a repris dans l'article en disant « Oui, mais il n'y a pas que Chrome OS, il y a aussi Linux. » Oui, tout à fait, oui. Je suis pour que tous les appareils, mais il s'avère que Chrome OS reste quand même hyper simple d'accès pour ceux qui ne veulent pas se lancer dans des lignes de commande, qui ne veulent pas vraiment changer leurs habitudes de consommation, parce que même si Linux est de plus en plus intuitif et simple d'usage, ça reste un système d'exploitation un petit peu pour les geeks et les barbus. Désolé Alexandra, va falloir laisser pousser la barbe, mais tu vois, donc du coup Chrome OS Flex est vraiment hyper intéressant, il a sa carte à jouer, et en amenant ce nouveau système d'exploitation, si je peux m'exprimer ainsi, courant de l'année et de l'année prochaine, on a de fortes chances de voir Chrome OS fleurir un petit peu partout. Et tu auras beaucoup beaucoup trop de travail Alexandra, et c'est là que tu devras prendre des alias, mais de nouvelles adresses mail pour tes collaborateurs,
voilà, les nouveaux usagers avec toi. Ouais. Je vais devoir payer, comme tu disais. Donc, voilà.
C'est ça. Il faut bien un jour. Continuons un petit peu sur l'usage quotidien que tu as de Google Workspace. Est-ce qu'il y a des éléments, parce que Google Workspace, c'est vraiment une galaxie qui est assez impressionnante. Et des fois, il y a des outils qui sont là, mais on ne sait pas qu'ils sont là. Et on les utilise sans savoir qu'on les utilise. Ils sont dissimulés dans d'autres applications. C'est des briques qui sont imbriquées les unes dans les autres. Et il y en a quelques-unes que tu voulais mettre en avant et que je trouve, moi, exceptionnelles. Alors, pour ceux qui voudront les liens de tout ça, si vous ne les trouvez pas par vous-même, évidemment dans les notes de l'émission vous avez tous les liens qui vont être dits, si j'en oublie n'hésitez pas à nous le rappeler, dans les notes de l'émission sous YouTube par exemple, vous pouvez me laisser un commentaire en disant hey, Nicolas t'as oublié de mettre le lien, et je vous le mettrai. Dis-nous ce que tu trouves les plus intéressants dans cette fameuse suite Google Workspace.
En fait, quand on se lance en entreprise, en affaires ou autre, ça peut rapidement être beaucoup d'achats, beaucoup de différents outils. Moi, ce que j'ai commencé par faire, c'est explorer la suite que je payais déjà pour voir ce qu'il y avait. Une des choses qu'on a besoin quand on est à notre compte, c'est un agenda de réservation, donc de pouvoir proposer facilement des plages. On veut plus ça, là, des courriels de « je suis disponible telle date, là, un retour, le temps qu'ils nous reviennent, les plages horaires se sont pris, il n'y a plus personne qui veut vivre ça. »
L'horreur.
Donc, ils nous reviennent deux semaines plus tard, finalement, ça ne marche plus, on ne veut pas ça. Donc, un agenda de réservation, c'est un essentiel et un incontournable, et il y a ça dans Google Agenda. Et l'agenda de réservation, depuis un an, là, c'est beaucoup bonifié de plusieurs options. On peut se créer différents créneaux. Par exemple, j'ai un créneau horaire d'une rencontre de 20 minutes, de 30 minutes, de 60 minutes. Et ça me fait des espèces de calendriers de réservation différents. Ce qu'ils viennent d'ajouter récemment, c'est l'ajout de collaborateurs. Donc, on pourrait mettre l'agenda de plus d'une personne. Génial si on veut être plusieurs à rencontrer un client, par exemple. Mais ce que j'aime beaucoup, qui était déjà là avant, là, qui n'est pas une nouveauté, ça prend en compte mon calendrier personnel aussi. Donc, j'ai un calendrier personnel avec mon Gmail qui est familial, qui est pour un rendez-vous chez le dentiste, par exemple. Ben, on ne veut pas avoir à aller bloquer la plage horaire ou oublier pour pouvoir répondre ensuite « Ah, mais cette plage horaire-là n'était pas disponible. » Donc, ça prend tout ça en compte. Ce que je n'ai pas testé, c'est d'accepter les paiements, mais c'est maintenant possible aussi avec Stripe. Donc, ça va être à essayer de mon côté. Ça, je ne suis pas rendue là encore, mais... des belles possibilités et c'est inclus déjà dans ma suite. Donc, je ne paie pas pour un outil supplémentaire de calendrier de réservation. Et jusqu'à présent, à chaque fois que je rencontre quelqu'un puis qu'on regarde ses outils, bien, ils payent pour d'autres outils de calendrier de réservation alors qu'ils en ont un déjà dans leur suite pour laquelle ils payent déjà. Le seul bémol que je vais apporter, c'est l'interopérabilité qu'on parlait tantôt. Google Agenda, les calendriers de réservation vont permettre l'ajout de Google Meet comme visioconférence. Donc, permettront pas de par défaut du rendez-vous de mettre, par exemple, un Zoom, un micro. Microsoft, mais il n'y a rien qui nous empêche d'aller ajouter le lien par la suite dans le calendrier, mais pour cette raison-là, certains vont faire le choix de d'autres outils comme Calendly, par exemple, qui fonctionne super bien avec la suite Google aussi, mais qui va permettre à la personne qui réserve le rendez-vous de venir choisir dans quelle plateforme, si on veut offrir toutes ces plateformes-là, parce que là, il faut aussi être très multiplateforme si c'est ce cas-là. Donc, voilà.
Oui, effectivement. Moi, je l'ai découvert quand ça arrivait en France, donc un petit peu après toi, je pense. J'utilisais Doodle, moi, parce que une version plus simple, gratuite. Enfin, dans la version gratuite, il y a de la pub partout, évidemment. Hein, mais, et le problème, c'est que c'était jamais intégré à mon agenda perso, ce qui fait que c'était à moi d'aller réfléchir les plages que j'avais définies. Donc, je pouvais lui dire, je suis disponible lundi, mardi, mercredi, mais il fallait que j'enlève les plages horaires que je ne voulais pas. Très complexe, finalement. Et quand j'ai découvert ça sur Google, franchement, ça m'a vraiment simplifié le traitement. Et pour des actions, alors j'ai pas utilisé Stripe, mais fin d'année, c'est sûr que je vais l'utiliser pour des séances en fait où j'aimerais que la personne ait payé en amont. Comme ça, au moins, on parle plus d'argent, c'est fait, c'est traité. Et si c'est une visioconférence, une formation en ligne ou autre chose comme ça, au moins on passe à autre chose directement et on ne se pose pas de questions sur l'argent. Je trouve ça vraiment sympa. Et Stripe prend beaucoup d'ampleur forcément à côté de PayPal ou d'autres solutions de paiement et c'est vraiment génial. Ouais, moi j'adore, j'aime beaucoup. Allez voir, hein, c'est simple. Hein, je vous donnerai le lien si vous le voulez, mais il sera dans les notes de l'émission. Mais vous le trouvez simplement dans Google Calendar, dans Google Agenda directement. Hein, vous pouvez le créer.
Créneau de réservation ou tu sais quand on crée un événement dans le bouton vous allez voir créneau de réservation ou agenda de réservation là ça dépend parce que quand nos navigateurs sont en français de France et français Canada c'est pas les mêmes termes donc exactement. C'est vrai donc super simple d'utilisation on peut en créer plusieurs donc c'est très très pratique moi je me suis fait aussi un petit raccourci clavier. Petite astuce qui va rapidement, là, mais quand j'écris RDV20, ben, ça met le calendrier de réservation de 20 minutes. Donc, quand je rédige un courriel, ben, j'ai juste à écrire RDV20, RDV30, RDV60, par exemple. Et là, ben, le lien se met automatiquement dans mes courriels. Donc, petite astuce rapide.
Et sur ton raccourci, tu l'as créé via Chrome OS, enfin via...
Je l'ai créé avec une petite application que j'ai testée qui s'appelle TextBlaze. Voilà, qui me permet de faire plein de petits raccourcis qui me suivent partout. Donc, je l'ai créé avec ça, mais on peut se créer plein de petits raccourcis. On sauve une fraction de seconde, on s'entend, mais de retourner, aller chercher mon lien, copier le lien, revenir... chaque petite seconde compte dans la journée.
TextBlaze, je l'utilise avec, on en reviendra peut-être dessus, mais avec ChatGPT, parce que c'est bien, on peut créer des GPTs, mais j'ai jamais vraiment... Enfin, je trouve ça un peu trop complexe par rapport à ce que je veux faire, et je crée des prompts qui font 8 km à peu près, que j'enregistre dans TextBlaze. Et par exemple, quand je veux corriger un de mes articles pour qu'il soit un peu plus compatible SEO que ce que je n'ai fait, je fais /SEO, puis je colle mon texte, et il me dit « Ah, t'as ça comme erreur, t'as ça comme erreur, t'as ça comme erreur. » Et ça me prend 3 secondes, alors qu'avant, j'aurais dû créer un GPT, ce que je corrige au fur et à mesure parce que c'est pas forcément très bien. Avec TextBlaze, c'est juste génial. Hein. Enfin, moi, j'adore. Hein. Je l'ai mis le lien dans la vidéo, si vous le voulez. Et puis, il sera dans les notes de l'émission. Je le rajoute.
Donc, plutôt que d'aller chercher le lien calendrier à chaque fois, on a aussi une page d'accueil avec tous les différents types de rendez-vous. Donc, on pourrait envoyer ça aussi. Mais parfois, je sais que je veux envoyer un rendez-vous de 30 minutes ou je sais que c'est un 60 minutes. Mais... TextBlaze m'aide de ce côté-là.
C'est top.
Et le principe de l'agenda de réservation n'existe pas, même chez Microsoft 365.
Ils ont Booking. Ils ont Booking qui est là, mais qui...
Ça paraît moins bien...
moins intuitif, disons. Mais qui offre de très belles possibilités aussi là, pour l'avoir déjà utilisé. On l'utilisait dans les écoles pour des réservations et tout, mais la création est un petit peu moins intuitive. Dans Agenda, il nous guide étape par étape. Là. Il nous pose la question, vous voulez des plages horaires de quand? Il faut répondre à chaque petite case. On ne peut pas se tromper, on ne peut pas faire d'erreur majeure non plus de programmation. Puis dire pourquoi ça fait tout à coup des rendez-vous dans mon calendrier de telle façon. C'est très, très simple à utiliser.
Et donc, excellent, merci. Tu utilises quoi ensuite? Parce que quand on est solo entrepreneur, quand on commence à devoir générer de la facturation, du budget, des dépenses, enfin des trucs basiques hein, de la vie de tous les jours hein, pour un entrepreneur, et qu'est-ce que tu utilises? Est-ce que c'est encore la suite Google Workspace que tu mets en avant?
Ben encore une fois, on m'a parlé de plein de choses et il y a plein d'outils qui existent en ligne pour faire la gestion de notre budget, notre facturation, mais là, on parle d'encore ajouter des coûts mensuellement ou un abonnement annuel ou autre. Certains outils vont offrir une version gratuite, mais là, il y a une grosse pub de la compagnie sur les factures que tu envoies. Donc, pour commencer, ben je suis allée tout simplement avec feuille de calcul, avec Sheets. Il y a des modèles qui existent, on peut ajouter des formules, donc j'ai fait des factures et j'ai ajouté une formule pour calculer les taxes parce qu'on s'en sort pas, il faut payer des taxes. D'ajouter par exemple, j'ai un suivi de mes dépenses, ben il y a des dépenses qui selon les revenus Québec, par exemple, c'est un amortissement sur 5 ans. D'autres, on peut seulement prendre 50 % des dépenses. Mais c'est toutes des formules très simples à mettre dans une feuille de suivi. Donc, plutôt, peut-être qu'un jour, j'aurai besoin d'un outil plus puissant pour tout gérer ça. Là, si je me mets à générer des millions de revenus, j'irai avec autre chose, peut-être. Mais pour le moment, ça répond aux besoins, ça ne me coûte pas un sou de plus. Il y a une tonne de modèles qui existent, des formules simples. Donc, très, très simple. Feuille de calcul, Google Sheets, allons-y.
Ouais, avec Google Apps Script, on peut vraiment faire des merveilles sous Google Sheets. Ouais. Donc, pour ce type d'utilisation de la facturation, de la suivi de budget, rien qu'avec les Google Apps Script derrière, déjà les formules de base plus derrière Google Apps Script, on peut faire vraiment des merveilles.
Ouais. Oui, effectivement, c'est un produit qui est hyper intéressant, hyper facile à prendre en main, de base, hein, vraiment, si on sait faire un calcul sur un bout de papier, on saura le reporter sur Google Sheets et du coup s'en sortir facilement et gratuitement, puisque c'est intégré dans la suite Google Workspace, donc dans ton abonnement mensuel, mais même pour ceux qui ne veulent pas payer, hein, Google Sheets, dans la version gratuite, le fait très très bien, et je m'en suis sorti très longtemps uniquement avec ça. Aujourd'hui, je suis passé, j'ai décidé de sortir tout mon budget sur ma banque en fait qui gère ça. J'ai une banque en ligne qui crée ma facturation, qui crée mon budget, mes dépenses, qui me fait ça gratuitement, qui me coûte 4 euros par mois. Donc après c'est une autre façon de fonctionner, mais j'ai voulu délaisser ça à un moment donné et ça marche aussi. Donc mais allez-y, un Google Sheet, je crois que je l'ai utilisé pendant, je sais pas, 8-10 ans à peu près avant de changer. Donc ça
pour
va,
débuter, moi je suis très avant de commencer à s'ajouter une multitude d'outils puis de paiements par mois, on peut commencer puis s'ajuster avec les besoins. Tout ce qui est mes factures, garder des copies, c'est Google Drive qui le fait sur mon Pixel de numériser la facture. J'ai très hâte d'avoir ce qu'ils ont aux États-Unis là, qui reconnaît même le nom de la facture et renomme le fichier, ce que je n'ai pas. Donc, il s'appelle numériser avec la date ou autre, mais quand même, il recadre facilement la facture. Donc, on peut sortir du restaurant, prendre la facture, elle s'en va directement dans le bon dossier. Le suivi est facile. Si j'ai un comptable qui fait mes impôts par la suite, je peux partager le drive avec les copies, puis partager un fichier Sheets avec mes infos et c'est suffisant pour le début. Comme je dis, quand les besoins deviennent plus grands, peut-être qu'on a besoin de plus, mais pourquoi pas commencer avec quelque chose de simple?
Donc, tout à fait. D'autres outils que tu utilises toujours dans la suite Google, si tu peux nous les lister rapidement sans forcément rentrer dans le détail, parce que certains, on les connaît déjà plutôt pas mal, mais tu en as mis 2-3 en avant qui te sont très utiles dans ton domaine en tout cas.
Ben, c'est sûr que là, j'ai pas entré dans Gmail qui est au quotidien. Les courriels sont encore extrêmement présents. Les modèles de courriels sont géniaux pour pouvoir ne pas réinventer la roue à chaque fois. Mais il y a Google Contact qu'on néglige peut-être, qui est là dans tous nos appareils, mais qui a beaucoup de sections à remplir. Donc, je m'en sers pour mettre des notes, par exemple, sur les rencontres. On peut facilement entrer plein d'informations. On peut les classer aussi avec des étiquettes pour facilement écrire un courriel à un groupe qui est, par exemple, tous des clients rencontrés dans telle activité de réseautage ou de les mettre par catégorie. Puis je me dis que si, parce qu'encore une fois, je suis pas rendue là encore, mais si j'ai besoin d'un CRM, là, d'un outil de gestion de clients, ben le fait d'avoir bien ma liste de contacts bien remplie, bien identifiée avec les bonnes informations, ben, ça rendra le tout facile quand j'exporterai le tout pour pouvoir passer à un outil plus puissant. C'est ça. Google Contact, moi, c'est vraiment, j'essaie de bien classer mes choses. J'aime aussi que je peux retrouver tous les courriels échangés avec la personne. Donc, on peut rapidement aller voir les échanges courriels. Donc, tout est là. L'autre outil, c'est Google Chat. Je suis encore surpris que plusieurs me parlent en main chat. C'est pas Hangout. C'est pas, ça existe plus. C'est Google Chat est un outil de communication qui permet des canaux, qui permet de discuter en un en conversation, mais en groupe. Ils ont maintenant des canaux d'annonce. Donc, on pourrait avoir seulement un canal annonce pour une organisation. On peut partager des fichiers et les applis dans Google Chat sont géniales. J'en ai un, c'est une appli qui est Google Drive, donc qui gère mon disque, mais qui me permet dans chat de pouvoir répondre aux commentaires de tous les documents que j'ai un peu partout. Donc, d'interagir avec tous mes documents qui se retrouvent dans le Drive, mais directement à un endroit qui m'avise qu'il y a un nouveau commentaire ou qu'il y a quoi que ce soit. Donc, c'est un outil qui développe beaucoup. Je dirais qu'il n'y a pas une semaine que je ne vois pas une nouveauté dans Google Chat. Donc, c'est un outil à explorer qui s'en vient un très bon équivalent à tous les Teams de ce monde et autres.
Oui, tu vois, je ne l'utilise pas du tout Google Chat ou très très peu, uniquement avec les gens qui sont dans l'univers Google. Hein. Il y a Cyril, je vois, dans le chat qui discute avec moi avec Google Chat. Je crois que peut-être toi aussi. Bref, tous ceux qui gravitent dans ce domaine, dans la formation autour de Google, de Google, en fait, vous utilisez cet outil-là. Moi, c'est vrai que je n'avais pas tendance à le faire, mais j'ai regardé cet après-midi lors de la préparation quand tu l'as rajouté, et effectivement, je ne me doutais pas de tant de possibilités sur Google Chat. Pour moi, c'était un chat parmi tant d'autres. Et du coup, j'allais au plus simple, ceux que tout le monde utilise, qui ne sont pas forcément géniaux, mais vu que tout le monde les utilisait, je me suis dit, on va passer par là. Mais Google Chat est intéressant. Olivier, tu l'utilisais un petit peu ou tu étais comme moi?
Non, et là, ça me rend hyper curieux. C'est vrai que je suis passé à côté, je ne l'ai jamais utilisé. Pour moi, objectivement, c'était un peu le chat du pauvre, quoi. Hélas, tout ce que tu viens de nous expliquer me donne envie d'aller faire un tour. Après, je suis 100% d'accord avec toi sur la partie aussi Google Contact. Effectivement, on peut surexploiter cette fonction-là. Il y a beaucoup de choses à y faire. Ouais. Je suis complètement d'accord avec ça. J'ai vu aussi que tu avais mis dans la liste, tu ne l'as pas mentionné, mais Screencast, oui. Qui est un super outil. On en a parlé il y a un mois, je crois, la dernière fois où j'ai participé à l'émission. C'est vraiment un outil qui se développe de plus en plus et qui est d'une facilité d'utilisation. C'est juste merveilleux.
Moi, je vais faire l'avocat du diable sur... Pardon, excuse-moi Alexandra, je vais faire l'avocat du diable sur Screencast. Il manque encore 2-3 trucs et dans le Discord de cet après-midi, on me disait il y a un outil qui est génial chez Apple, c'est leur logiciel de capture d'écran parce que tu peux directement annoter ta vidéo, tes captures d'écran directement via une application un peu équivalente, je sais plus le nom, je suis désolé. Et moi ça me manque un petit peu ça parce que effectivement, tu as le laser, tu as pas mal de choses pour la présentation, mais l'annotation me semble plus complexe sur Screencast. Alors après, je sais peut-être pas l'utiliser, mais voilà, je suis un petit peu. Il manque encore des trucs.
Non, c'est vrai. Je crois que c'est vraiment en développement, fait qu'on va voir beaucoup de nouvelles possibilités. Ça va et on est encore dans les débuts. Ils ajoutent aussi beaucoup de fonctionnalités dans Google Slides d'enregistrement. Donc, on peut maintenant enregistrer directement. On a de mettre le présentateur en focus et tout. Donc, ce sont tous des outils que d'habitude je payais parce que je payais pour des outils externes. Fait que je comprends, par exemple, j'utilisais Screencastify, qui était absolument génial avec tous ces outils. Mais malheureusement pour eux, et je les aime beaucoup encore, mais je ne paye plus mon abonnement parce que même s'il manque encore des fonctionnalités, ben, je vais y aller avec la version payante qui va être la version gratuite de Screencast qui va répondre quand même à mes besoins.
Ouais, effectivement. On va continuer, on va sortir de l'univers de Google parce que les Chromebooks savent utiliser aussi autre chose que des outils Google. Tout ce qui est extensions, applications tierces que tu utilises, tous les outils que tu viens amener en plus avec toute cette panoplie, toute ta caisse à outils Google. Est-ce qu'il y en a qui sont pour toi incontournables que tu voulais mettre en avant pour que ceux qui veulent se lancer aient eux aussi des outils à porter?
Bien, le premier que là, j'expérimente, c'est tout nouveau, mais c'est Clockify. Donc, c'est un outil pour faire le suivi de temps parce que puisque j'ai différents clients et que pour un, bien, par exemple, ils ont une banque d'heures, de temps d'heures et autres, il faut que je fasse un suivi de mon temps. C'est pas vrai que je vais partir des minuteries ici et tout. Donc, je veux quelque chose qui va me suivre. Et ce que j'aimais de Clockify, c'est justement son intégration dans mes outils. Donc, intégré dans mon agenda, je peux facilement partir. Si, par exemple, je suis en rencontre, je peux partir Clockify et il va s'ajouter facilement. Il fonctionne aussi dans Gmail parce que des fois, on a des longs courriels, des échanges et tout. Je peux partir le tout. Il fonctionne en Google Docs aussi quand je rédige, par exemple, un suivi ou autre. Donc, en plus, c'est une extension, donc je pourrais le partir manuellement ou ajouter manuellement. Et il fonctionne en application aussi. Donc, si je ne suis pas devant mon écran, mais je suis sur la route, je pourrais aussi partir le tout. Donc, j'aimais le fait que je peux y avoir accès en tout temps. J'utilise une version gratuite tout simplement pour le moment. J'ai pas suffisamment, j'ai pas même pas exploré les outils payants pour. Puis ça me suffit, mais j'aimais son intégration. On parle à minuterie et c'est tout.
C'est top, hein. Excellent, un super outil. Je vais l'utiliser aussi. Ça va me simplifier la vie sur pas mal de points. D'autres outils plutôt créatifs cette fois peut-être?
Mais je peux pas ne pas nommer Canva, qui est un incontournable pour tout. On parlait des vidéos tout à l'heure. Là, il y a des possibilités de montage vidéo dans Canva par la suite qu'on peut ajouter toutes sortes de choses, mais pas tout ce qui est réseaux sociaux, créer des publications, des images, créer des rapports. Il y a aussi beaucoup de documents. Donc, toutes mes offres de services sont faites dans Canva parce qu'ils ont des documents avec des superbes modèles et tout qu'on peut facilement envoyer pour faire la promotion de nos services. On peut publier directement sur les réseaux sociaux à partir de Canva aussi avec un planificateur. Et là, j'en passe parce que Canva a des fonctionnalités hallucinantes, de l'intelligence artificielle pour nous aider à générer un paquet de choses. Donc, c'est un incontournable. Si j'avais un outil payant là, à investir, c'est Canva. C'est un incontournable, j'ai pas le choix.
Oui, effectivement, entre la vidéo, le contenu d'image, il sait vraiment tout faire. Il a pris une part très très importante dans les médias sociaux. Et c'est assez, assez bluffant comme logiciel. Moi, j'invite tout le monde à l'utiliser. Quand on me demande j'aimerais faire un visuel pour la kermesse, comment je fais? Canva, en fait, pas de question. Et je suis toujours surpris que les gens ne le connaissent pas.
C'est un outil qui a réussi à s'imposer assez rapidement finalement, hein, parce que c'est pas si vieux que ça. Alors, ça fait quand même quelques années maintenant, mais c'est devenu un incontournable en assez peu de temps. Et effectivement, il y a des trucs. On peut faire des trucs incroyables avec Canva.
Ouais. Ouais, effectivement. Ouais, et puis comme dit Adrien, Canva plus IA Google, c'est génial. Bah, je suis tout à fait d'accord. C'est juste fou. Un outil qu'on pourrait pas. Enfin, si tu travailles un petit peu avec un ordinateur, je crois que c'est un minimum à avoir. Hein. Même la version gratuite est sympa. Alors il n'y a pas l'IA, je crois, dans la version gratuite, mais même la version gratuite est hyper intéressante à utiliser. Elle limite sur certains points, mais franchement, c'est pas si limitant que ça. Et ça marche vraiment très bien. C'est
la banque d'images, de vidéos, d'audio libre de droit qu'on peut sans avoir à passer par plein d'autres sites pour importer, trouver l'image. Les outils de recherche sont simples à utiliser. Je dirais mon seul bémol, c'est que j'ai hâte qu'il y ait plus que juste mettre ma production dans Google Drive, que je puisse, par exemple, l'envoyer dans un slide ou l'envoyer dans d'autres documents, parce qu'on peut le faire avec PowerPoint, entre autres. Ils ont toutes les applications qui sont intéressantes à aller observer aussi. Là. À gauche, appli, vous allez voir, c'est hallucinant. Ils en ajoutent à chaque semaine qui font de plus en plus de choses. Certaines, parfois, qui deviennent payante après tant d'utilisation. La fonctionnalité de traduction est particulièrement intéressante. Elle est gratuite, celle-là, je pense, où il y a un nombre d'utilisations, mais c'est tellement énorme qu'il faudrait tout traduire. Mais des fois, on tombe sur un modèle qui est en anglais, qui a été créé en anglais. On peut traduire en un clic et après, on fait un peu de correction si on n'a pas aimé les choix de traduction, mais ça sauve un temps fou. C'est Canva, c'est un incontournable, je ne m'en passerai pas.
Je suis d'accord avec toi. Alors du coup, je me suis demandé si dans la communauté, il y avait des utilisateurs passionnés de Chromebook, de Chrome OS et qu'ils avaient dans leur quotidien professionnel ou personnel des outils qu'ils voulaient mettre en avant parce que pour eux, c'est un incontournable également. Et là, je vais vous en lister. Alors on ne va pas s'arrêter forcément sur tout, sauf si vous avez quelque chose qui peut être intéressant dessus. Donc on m'a cité, alors j'ai pas tout pris. Je suis désolé pour ceux qui en ont mis une tonne. Hein. J'en ai sélectionné quelques-uns parce que l'épisode aurait fait 3-4 heures. Mais j'ai sélectionné, par exemple, il y a InnoReader qui est un agrégateur de flux RSS. Alors, ce qui est assez étonnant avec le flux RSS, c'est que pour moi, c'était quelque chose d'un autre temps. Tu vois, c'est le truc de barbu, enfin des choses qui viennent de très très loin. Et finalement, le flux RSS revient de plus en plus dans mes conversations. Il y a de plus en plus d'utilisateurs qui m'en parlent. Je ne sais pas si, dans votre côté, si c'est le même cas, et InnoRider en fait partie apparemment, c'est un usage qui est assez fréquent.
On en entend beaucoup parler hein, d'InnoRider, effectivement. Ouais. J'ai jamais trop regardé, parce qu'il a l'air un peu usine à gaz aussi, parce qu'apparemment on peut intégrer aussi les réseaux sociaux, on peut intégrer beaucoup de choses, YouTube et j'en passe. Mais effectivement, il a l'air très très bien, et oui, moi je suis resté sur mes bons vieux lecteurs RSS, Feedly notamment. Mais,
sur, mais je vais sur aller InnoReader, voir. Ce qui est bien, ouais. C'est que tu récupères l'information, tu peux surligner des choses. En fait, tu gardes l'information et tu peux donner des mots-clés, ce qui te permet d'aller chercher directement, ce qui n'est pas forcément le cas avec un flux RSS standard, comme on peut l'utiliser peut-être nous. Mais ça reste un bel outil. Hein. Alexandra, tu voulais rajouter dessus?
Ben moi, j'utilisais Feedly, mais je vais aller voir effectivement. Moi, j'ai un mix entre, c'est pas du flux RSS, mais j'utilise Pocket pour pouvoir conserver rapidement les outils. Puis après ça, j'ai Feedly aussi qui me sert avec, surtout ceux qui n'ont pas d'infolettre ou autre, pour pouvoir suivre les blogs. Sinon, ben, y a les infolettes, mais je vais aller voir InnoReader, c'est intriguant.
Tu vas voir, il y a pas mal de choses intéressantes dedans. Dans la suite, on m'a évidemment nommé Notion. On en a parlé tout à l'heure. Alors, moi, je vais vous expliquer un tout petit peu comment j'utilise parce que c'est très, très vague. Notion, c'est tellement... En fait, tu peux à peu près faire tout ce que tu as envie de faire. Et c'est peut-être en ça que c'est compliqué, c'est qu'il y a tellement de choses qu'on ne sait jamais par quoi commencer. Et on le disait juste avant, pendant les préparatifs de l'épisode, que des fois, perdre trop de temps à changer d'outil, c'est contre-productif. Bon, en l'occurrence, moi, j'utilise Notion avec Mr. Robot, par exemple, où je m'en sers pas comme de flux RSS, mais comme de Pocket, où je mets dedans, avec une extension, hein, je mets dans Notion les sites, les articles de presse qui m'intéressent, que je partage avec Laurent, et je mets ça à rédiger, pas à rédiger, à regarder, à utiliser. Ça, c'est de l'intelligence artificielle. Ça, en fait, on donne des thématiques. Et puis après, ben, quand on veut aller chercher quelque chose de particulier, par exemple à l'IA, eh ben, on vient chercher cette solution dans un tableau. Et ensuite, ça vient à être organisé pour les réseaux sociaux, pour l'écriture d'articles. Et comme ça, entre nous, on sait où on en est sur les différents sujets qu'on veut aborder. Donc lui, il ramène les siens, moi je ramène les miens, et on travaille dessus de pair, et puis bon, on vient piocher ce qu'on a besoin. Donc moi, je l'utilise comme ça avec Mr. Robot. Je l'utilise d'une autre façon aussi, puisqu'on peut partager, faire des faux sites web, des sites web qu'on peut partager qui sont non modifiables. J'ai un espèce de CRM... Non, pas de CRM, mais si, un peu ça, une base de données où j'ai tous les outils que j'utilise dans l'entreprise pour laquelle je travaille et j'essaye de regrouper tout en un seul et même endroit. Et c'était la chose la plus simple parce qu'en fait, je dépose un lien URL dedans et pouf, ça me fait une petite vignette et les utilisateurs ont juste à cliquer dessus. J'y mets un petit commentaire pour expliquer ce que c'est et ça permet d'organiser... d'avoir une seule page, un IRM à moi, tout fait rapidement, très simplement. Alors évidemment, j'utilise le minimum vital, mais voilà, Notion, c'est quelque chose que j'utilise un petit peu, pas à son plein potentiel, mais je l'utilise assez régulièrement. Je sais, Alexandra ou Olivier, que vous en avez entendu parler, et je ne sais pas ce que vous en pensez.
Comme on en parlait tout à l'heure, mais effectivement, c'est un outil qui est très profond, qui est un outil polymorphe. Finalement, il va s'adapter à la façon dont on veut qu'il fonctionne. C'est une base de données de toute façon derrière qui fait fonctionner l'applicatif. C'est juste la façon dont c'est présenté qui est différente par rapport à des bases de données type Access ou SQL. Mais on peut y mettre ce qu'on veut, des liens, on peut y mettre des images, on peut y mettre des tableaux, des sous-bases de données, peu importe, on peut y mettre beaucoup de choses. Et c'est un outil qu'on peut prendre en main et finalement s'approprier comme vous l'avez fait avec Mister Robot. Moi, j'en ai pas trouvé l'utilité au quotidien. Peut-être qu'un jour, ça arrivera. Et finalement, ce côté polymorphe, j'ai un peu de mal à savoir par où l'attraper, par où le choper et savoir ce que je vais en faire derrière. Moi, je l'utilise que pour une chose, c'est pour les automatisations, notamment de ChatGPT, parce que des outils comme Make, dont j'ai déjà parlé sur d'autres épisodes, permettent très facilement d'utiliser les API de Notion, je dis toujours Notion, moi je suis un franchouillard, de Notion, ça permet de très facilement envoyer des informations justement dans des bases de données Notion. Donc, finalement une des rares utilisations que j'ai de Notion, c'est y envoyer des résultats de ChatGPT via les automatisations.
Oui, effectivement. Et on peut faire de la facturation, on peut faire regarder sur les différents réseaux sur YouTube. Il y a des passionnés de Notion qui nous font des trucs mais vraiment exceptionnels. Je n'en suis pas à ce niveau-là, donc je vous laisserai aller voir les spécialistes du domaine. Si on continue, on m'a cité à plusieurs reprises, on va en citer quelques-uns, mais un VPN, en fait, c'est un outil que beaucoup utilisent sur leur Chromebook, sur leur smartphone. On ne va peut-être pas expliquer ce que c'est un VPN. On m'a cité KeepSolid, NordVPN, Google One, bon, facilement intégrable sur un Chromebook, hein, il suffit de télécharger l'application ou de la préparamétrer dans les paramètres de Chrome OS pour que ça fonctionne parfaitement. Moi, j'invite tout le monde à en utiliser, hein, surtout si vous êtes amené à vous balader sur des réseaux hotspot, par exemple, hein, tout simplement, sans aller très loin. Avec Adrien, on en avait parlé lors du dernier épisode, allez voir l'épisode 128, j'ai adoré le faire, je remercie énormément Adrien pour le temps qu'il a passé à le faire avec moi, donc c'était pour la sécurité. Je pense que c'est un minimum vital que d'avoir un VPN. On continue, une autre chose, et ça je sais que vous allez tous être d'accord avec moi, c'est Language Tool, une extension, un logiciel, une solution, on en parle tout le temps, j'ai l'impression qu'on devrait être sponsorisé par eux, je pense. Language Tool, un correcteur orthographique, un correcteur de style, qu'est-ce que ça... Alexandra, je sais que tu es aussi fan que moi de Language Tool, comment on pourrait le mettre encore plus en valeur?
Moi, j'aime beaucoup sa reformulation. Donc, il me propose toujours, je crois que, je ne sais pas la différence entre la version gratuite et payante. Là, j'ai la version payante depuis un bout de temps. Ils m'ont convaincu. Mais de pouvoir prendre une phrase puis qu'il me propose 6 variations de la génial. Même phrase, ça, c'est génial parce que des fois, on ne sait pas pourquoi ça accroche. On n'aime pas comment c'est dit. Là, il y en a une qui ressemble plus. Moi, je m'en sers tout le temps, surtout pour ça, la reformulation. Mais pour les synonymes aussi, ou pour des fois, ça accroche un mot, il me donne toute une... Et le fait que ça me suit partout, que je peux être sur X, que je peux être dans Google Chat, que je peux être dans ce que je veux, et il me suit partout, c'est génial.
Et cette solution, pour info, elle fonctionne partout. Alors, pas forcément. J'utilise Thunderbird, le logiciel client mail de Mozilla. Il y a une extension Language Tool qui est intégrée dans Thunderbird. Je comprends pas qu'on l'utilise pas. Alors, il y a des concurrents à lui qui sont très bien. Il y a Antidote, par exemple. Mais oui. Sur Chrome OS, qui ne fonctionne pas forcément très bien. Et du coup, Language Tool, je sais, Olivier, tu l'utilises également, hein, il me semble.
Ah oui, je pourrais pas m'en passer. Et déjà, juste pour l'orthographe de base, hein.
moi aussi.
Parce que des fois, je tape des kilomètres et des kilomètres sans même lever le nez de mon clavier. Et puis finalement, après, j'ai plus qu'à utiliser LanguageJool pour corriger les phrases très rapidement. Donc, c'est un must-have.
Vous aurez, de toute façon, hein, si vous ne l'avez pas encore, LanguageJool, même dans la version gratuite, vous aurez le lien dans les notes de l'émission. Allez l'essayer, et c'est un incontournable. D'autres produits qu'on m'a cités, Gitmine, c'est un logiciel de cartographie mentale. Je trouve ça juste génial pour organiser mes idées. Si vous êtes comme moi, alors je ne sais plus qui m'en a parlé, mais il doit être comme moi aussi, ou elle doit être comme moi, à avoir à peu près 7 milliards d'idées à la seconde, et sans jamais arriver à les associer les unes aux autres, parce que c'est compliqué dans notre tête. On crée un point d'accroche central et on vient mettre toutes les idées, puis après on les relie les unes aux autres, et ça fait d'un seul coup une carte mentale qui est hyper lisible. J'adore vraiment cette utilisation. J'en ai déjà parlé plusieurs fois également sur le CKB Show et dans mychromebook.fr. Je ne sais pas, Alexandra, comment tu organises quand tu crées une formation, par exemple, ou d'autres solutions? Est-ce que tu utilises une carte mentale, ou toi, c'est défini dans ta tête, tu sais exactement où tu vas et comment tu y vas?
Je ne sais pas exactement où je vais et comment j'y vais, mais je ne suis pas très carte mentale pour une raison que je ne suis pas capable d'expliquer. Moi, je vais aimer mieux commencer à mettre les choses en séquence, à les déplacer par la suite, donc ou à prendre des notes et à gribouiller. Là, présentement, je teste depuis décembre passé la Kindle Scribe qui est assez abordable et qui a vraiment l'effet papier-crayon qui me permet de conserver mes notes et tout. Donc, je vais plutôt gribouiller, faire un paquet de choses. C'est peut-être une carte mentale à la fin, finalement, mais sans les ronds, sans les flèches qui font des liens. Mais ça va ressembler pas mal à ça.
Ouais, c'est top. Olivier, pareil, tu...
Les deux, soit
des deux, mon général.
Sur certains sujets, ça va être plus séquentiel, et sur d'autres, ça va être plus des cartes mentales, quand j'ai besoin de faire preuve de plus d'imagination, souvent, d'ailleurs. Ça booste mon imagination, oui.
Effectivement, ben pour la petite histoire, j'essaye désespérément depuis plusieurs années d'écrire un roman. Le problème, c'est que j'ai trop d'idées à la seconde. Je ne sais plus forcément quel personnage a fait quelle chose, parce que je l'écris, ça fait 8 ans que j'y pense. Donc, ça fait 8 ans que j'écris. Ben, à un moment, j'ai oublié qu'il avait les yeux bleus. Hein, je m'en souviens plus. Mais dans ma carte mentale, en fait, j'ai une carte mentale personnage. Et ce personnage, il est relié à telle action, à tel produit, à telle voiture, telle maison, tel lieu. Et sur ma carte mentale, en fait, je clique sur le personnage et pouf, ça éclate d'un seul coup tout ce qu'il est capable de faire, tout avec ce quoi il a interagi auparavant, ce qui me permet de ne pas me perdre trop dans la réflexion lorsque j'ai besoin de ce personnage à un moment donné. J'avance pas, hein, malgré tout, ma carte mentale est plus grande que le livre. Mais au final, j'ai peut-être...
Pour publier la carte mentale,
finalement.
Ça va être un livre de carte mentale.
C'est un livre où vous êtes le héros, vous prenez les actes et puis vous en faites ce que vous voulez. Après tout, merde. Une fonctionnalité qu'on m'a mis en avant et que j'adore également, et que peut-être que tu pourrais utiliser, Alexandra, c'est l'application Nebo. J'adore Nebo, moi j'en parle très souvent, surtout sur un Chromebook avec un écran tactile et compatible avec un stylet USI. C'est une application de prise de notes qui utilise l'intelligence artificielle pour reconnaître les écritures majuscules, minuscules. Donc tu écris à la main et lui va te le convertir en version informatique, je ne sais pas comment on l'appelle, en caractère majuscule, enfin bref, vous m'avez compris, ça convertit toutes mes notes. Donc ma carte mentale, je peux la faire aussi dessus d'ailleurs. Je fais un rond, un rond à Malveille, franchement, moi c'est plutôt une patate qu'un rond, et d'un seul coup, pouf, ça me crée un super beau rond. Ma flèche, elle est pourrie, il va me créer une belle flèche, je vais pouvoir colorier, je vais pouvoir annoter en plus, et Nebo est vraiment très intéressant. Donc dans la version gratuite, il est top déjà, et dans la version payante, qui est c'est pas un abonnement, hein, tu l'achètes une fois pour toutes, donc ça c'est plutôt sympa. Et moi j'adore cette solution de prise de notes, d'organisation, et je prends quand je suis en réunion. Moi j'aime bien l'écriture manuscrite, mais j'aime la technologie aussi, alors il faudrait que j'apprenne le Kindle, ou alors j'utilise mon Chromebook avec Nebo et mon stylet USI plutôt que mon carnet. Et l'avantage, c'est que ça va me le transformer, puis après je fais des recherches via ni plus ni moins un contrôle F, hein, simplement un control find pour trouver les mots que j'ai besoin. Quand j'ai fait 17 pages d'écriture, et je fais beaucoup beaucoup de dessins quand je suis en réunion, et ces dessins me rappellent pas mal de choses, donc ça me permet d'avoir dans Nebo ma façon de penser, en fait. Donc je sais pas, Alexandra, si tu l'avais déjà utilisé ou si...
J'ai pas essayé, mais cette semaine j'ai essayé avec ChatGPT de lui donner de l'écriture manuscrite. Et honnêtement, je suis très impressionnée. La différence, c'est que plus il va y aller avec le contexte s'il ne comprend pas le mot. Donc, il y a des mots où il n'avait pas compris mon écriture, mais il a remplacé par un mot qui avait du sens dans la phrase parce qu'il s'est dit que c'est ça que ça prenait pour terminer la phrase. Donc, assez impressionnant de pouvoir dire, je prends en photo quelque chose que j'ai gribouillé, puis il me le réécrit. C'est sûr que là, c'est il faut après que je prenne le texte, que je le copie ailleurs, que ben, je voyais des belles possibilités. Donc, de l'utiliser en contexte était une petite couche de plus, là, pas il a écrit un mot qu'il pensait que c'était autre chose, il l'a remplacé parce qu'il savait pas c'était quoi. Puis vraiment, c'était du gribouillis, là, c'était on n'était pas dans une belle écriture. Puis il y en a beaucoup qui m'ont posé la question, est-ce qu'ils reconnaîtraient les chiffres? Fait que là, je veux tester, est-ce que je pourrais, par exemple, avoir des chiffres, des équations, puis après ça, l'interroger sur le texte par la suite. Donc, peut-être... Un autre avec ChatGPT encore, voilà.
Ouais, on va y revenir juste après d'ailleurs. Et puis, dernière chose que j'ai retenue parmi tout ce qu'on m'avait amené, c'est une application Android qui s'appelle AnkiDroid, qui est assez intéressante parce que c'est une application qui est gratuite, hein, il faut déjà le souligner, qui permet aux utilisateurs de mémoriser des informations sous forme de cartes flash personnalisables. En gros, tu veux apprendre, je sais pas, les différentes capitales de chaque pays dans le monde. Bah, tu vas pouvoir générer une espèce de base de données sur les cartes avec des cartes qui te présentent toutes les capitales du monde. Et puis, en fait, tu vas l'utiliser comme un jeu pour apprendre, en fait, un jeu de cartes, finalement. Et c'est hyper intéressant. Alors, j'ai testé seulement aujourd'hui parce qu'on me l'a présenté ce matin. Donc, je ne pourrais pas vous en parler beaucoup plus que ça. Mais ça me paraît hyper intéressant à utiliser, ne serait-ce que dans le milieu scolaire ou dans la formation, justement, pour créer un jeu rapide. Je pense que ça peut être sympa, en fait. Et ça fonctionne parfaitement sur Chromebook, en plus. Donc, c'est top, hein. Dans le chat, on nous dit quelle application de prise de notes. Ah bah, il y a Mister Robot qui nous demande quelles sont les applications de prise de notes que les autres utilisent. On a Alain qui nous dit Keep ou Google Task. Eh bah, bravo. Et puis Mesiana, Google Keep. Évidemment, Google Keep, ça s'améliore énormément aussi. Hein. Oui. C'est assez impressionnant. Pour continuer, Alexandra, tu nous avais dit que dans ton travail, bah, tu viens de nous en parler, tu utilises de plus en plus ce ChatGPT. Mais oui, mais pourquoi ChatGPT tu ne sais plus le faire toute seule ou
non, c'est devenu... Non, je ne suis plus capable de rien faire toute seule depuis qu'il y a ChatGPT. Donc, honnêtement, quand il tombe en panne, là, je suis malheureuse. Là. Il y a un moment... il y a certaines journées où je suis très productive et qui m'arrêtent parce que même si j'ai la version payante, on se fait arrêter après un nombre de requêtes. Donc, ça m'est arrivé vendredi. Bon, mon conjoint me dit « qu'est-ce qui arrive? » Je dis « je ne peux plus avancer. J'ai atteint mon nombre de requêtes. Je dois attendre à 5h41 pour pouvoir continuer de travailler. » Mais je m'en sers vraiment régulièrement. Ça me donne des idées pour plein de choses, pour résumer des textes longs. Mais je m'en sers beaucoup pour les réseaux sociaux aussi. Ce que j'adore, c'est qu'il va m'aider à prendre ma publication et l'adapter pour les différents réseaux, parce que c'est pas la même chose sur X que sur LinkedIn, que sur Facebook, que sur Instagram. Donc, il va prendre le même texte et va l'adapter. Quand on a des formulaires à remplir, parce que quand on démarre en entreprise, on a plein de formulaires gouvernementaux à remplir. Et là, on va nous exiger d'expliquer, par exemple, notre entreprise en 200 caractères. Mais là, je peux lui donner ma description, dire « adapte-le en 200 caractères pour mettre ça sur le tout ». Moi, j'utilise la version payante. Donc, tu as parlé tantôt là, des espèces de chatbots personnalisés. J'en ai un pour le blog, j'en ai un pour les réseaux sociaux. J'aime beaucoup qu'on peut les appeler dans une autre conversation aussi, là, avec le petit A commercial, puis dire « parfait, prends ça ». Mr. Robot me pose la question pour Gemini. Ça vient d'arriver. Ça fait une semaine et demie qu'on l'a au Canada. On ne l'avait pas, nous, du tout. Donc, c'est tout nouveau. Ça m'arrive régulièrement d'avoir quatre outils d'ouvert, dont Copilot, Gemini et tout, de faire le test, de voir qu'est-ce qu'il me répond par curiosité. J'ai peut-être un peu trop de temps. Je vais éventuellement avoir moins de temps pour tester tout ça, mais ça m'intrigue. Puis effectivement, là, J'essaie Gemini de plus en plus, mais ça fait à peu près une semaine et demie qu'on y a accès.
Alors, il va falloir que tu testes quand même le chat de chez nos amis de Mistral. Se développe énormément, qui a sorti son chat. Alors, c'est plus une preuve de concept, on va dire, mais ça fonctionne terriblement bien. Je l'ai testé la semaine dernière. Donc, ça s'appelle le chat, et c'est rigolo, quand on le met en mode sombre, il s'appelle le chat noir. Et franchement, les résultats sont super intéressants. Encore un à tester en plus.
Voilà. Donc, je vais avoir des onglets, je vais faire la même requête 5 fois maintenant au lieu de 4. Donc, parce que l'autre, c'est Perplexity que j'utilise aussi souvent. Mais je dois avouer que je reviens souvent à ChatGPT. Il y a beaucoup d'extensions, il y a une extension que j'aime beaucoup que par GLASP qui s'appelle YouTube Summary. Et avec le raccourci clavier, je peux sur n'importe quelle vidéo YouTube ou un texte, j'ai un petit raccourci clavier, ça me fait un résumé. Puis ensuite, je fais le petit A commercial et je vais chercher mon chatbot de réseaux sociaux. Je lui dis, prends le résumé et crée-moi avec mon ton à moi une présentation de l'article. Donc, ça me permet de diffuser de l'information. Donc, en 2-3 clics et voilà. Donc, je m'en passerai pas effectivement.
Le ChatGPT, enfin les IA en générative, pour moi, ont révolutionné pas mal de choses dans mon travail. Ça me fait gagner un temps. Franchement, dans une journée, je gagne bien. Allez, si c'est pas une heure, c'est pas loin de gagner une heure par jour. Hein. Et je peux vous dire que c'est vachement utile. Et Mister Robot pourrait vous le dire. Aujourd'hui, je passais plus de temps sur les réseaux sociaux à essayer de trouver les termes pour parler d'un produit qu'on avait créé ou fait. Maintenant, j'ai une semaine, toutes les semaines, j'ai une semaine d'avance d'articles sur ma Chromebook de fait, parce que je perds plus de temps sur d'autres choses, donc je peux prendre plus de temps pour écrire des articles, et en une journée, j'écris tous mes articles, alors qu'avant, j'en écrivais 2 par jour, parce que j'avais pas le temps, en fait, tout simplement, et ça a révolutionné ma façon de travailler, et dans toutes les activités que j'ai, hein, clairement. Hein. Typiquement, tu vois, ma carte mentale pour mon roman, je l'ai mis dans ChatGPT, hein. Et c'est génial, hein. Enfin, c'est assez bluffant. Hein. Je lui dis, tiens, au fait, résume-moi ce que je voulais dire à cet endroit-là. Et il me sort un truc, je fais, j'aurais pas fait mieux, c'est génial, merci. Et j'ai pas besoin d'aller plus loin, c'est vraiment top, hein. C'est impressionnant.
Cette semaine, notre machine à café affichait, et on n'avait aucune idée c'était quoi, essayer de retrouver le guide d'utilisateur. On aurait pu aller sur Google, chercher, trouver, mais là, est-ce que c'est le bon modèle? On a juste pris en photo, puis on lui a dit, c'est quoi? Et qu'est-ce que je dois faire? Puis on avait étape par étape et c'était vraiment les bonnes étapes pour faire un nettoyage de la machine qu'il fallait faire après tant de mois ou je ne sais pas. Mais c'est une photo, les instructions. Puis il nous a même invités à aller valider les informations avec le manuel d'information, mais on avait confiance qu'on n'allait pas briser la machine en essayant. Donc, on s'en sert vraiment, vraiment au quotidien.
C'est top, effectivement. Pour continuer un petit peu, tu as parlé tout à l'heure, Alexandra, d'un truc un peu spécial, un CRM. Alors moi, je sais un peu ce que c'est, mais au fait, c'est quoi un CRM, Olivier ?
Ah oui, parce qu'on parlait des applications spécifiques aux entreprises, et beaucoup d'entreprises, une énorme majorité des entreprises utilisent un CRM. Donc, qu'est-ce que c'est un CRM ? C'est finalement des applications donc CRM, ça veut dire Customer Relationship Management, hein, donc la gestion de la relation client en français, et c'est ni plus ni moins que une base de données avec tout ce qui concerne les clients, qu'est-ce qu'on leur a vendu, qu'est-ce qui les intéresse, quelle opportunité on a pu avoir avec eux, qu'est-ce qui a été concluant, quel est leur profil, enfin bref, tout ce qu'on peut savoir sur un client. Et donc, ce sont des logiciels qui sont énormément utilisés dans la vente, forcément, dans le marketing, mais aussi maintenant qui se développent de plus en plus parce qu'on y intègre beaucoup de choses, et notamment la facturation, finalement, qui est générée directement par le CRM. Il y a des choses, des reporting, des prévisions de vente qui sont faites grâce à ces outils-là. Bref, c'est un incontournable en entreprise. Et bonne nouvelle, parce que finalement, les CRM, on peut les utiliser via un Chromebook, parce que beaucoup, finalement, ne sont que des liens Internet. Hein. Ce sont des outils en ligne, des applicatifs en ligne. Alors, les plus connus, je ne sais pas si ça vous parle, en tout cas, mais les plus connus de ces CRM, le plus connu, c'est Salesforce, qu'on voit régulièrement, parce qu'ils font pas mal de pubs quand même. Un autre, c'est HubSpot. Il y en a d'autres, hein, Zendesk, Axonaut, PipDrive, celle-ci, la solution de Microsoft qui est Dynamics 365. Bref, il y en a toute une panoplie, mais systématiquement, en fait, ce sont des outils auxquels on accède via le navigateur, tout simplement. Donc, le navigateur ou alors des applications mobiles, hein, sur iOS ou sur Android. Et du coup, bah, ça fait que nos Chromebooks, c'est l'ordinateur parfait pour utiliser un CRM en plus des applications dont on a parlé tout à l'heure, des applications de bureautique et toutes les autres qu'on a mentionnées depuis le début de l'épisode. J'ai posé la question à ChatGPT, mais pourquoi un Chromebook serait un ordinateur parfait pour utiliser le CRM ? Et effectivement, il m'a parlé effectivement de l'orientation cloud, il m'a parlé de la sécurité, de la simplicité et l'efficacité du Chromebook par rapport à tous ces applicatifs en ligne, le coût, bien sûr, la mobilité avec les batteries qui durent plus longtemps qu'ailleurs. Et puis, c'est vrai que ça, c'est un argument que j'avais pas, sur lequel je n'avais pas tilté au départ, mais l'intégration avec la Google Suite, beaucoup de ces CRM, finalement, à part peut-être Microsoft Dynamics, mais beaucoup sont extrêmement connectés à Google Workspace, à la Google Suite, anciennement Google Workspace. Donc voilà, en résumé, bah, les Chromebooks, c'est juste parfait pour utiliser les CRM, et donc c'est un gros applicatif entreprise qui est finalement super bien géré par nos machines préférées.
Oui, c'est top, hein. Et merci. Et ça répond à la question, finalement, travailler à 100% sur Chromebook, est-ce que c'est possible ou pas ? Ben, Olivier, tu viens de répondre, hein, puisque les CRM, de plus en plus d'entreprises l'utilisent. Alexandra, pareil, hein, tu nous montres qu'avec des outils en lien, accessibles via Internet, Canva, Google Rendez-vous et compagnie, on peut se servir d'un Chromebook très très facilement. Alors, pour encore faire l'avocat du diable, si ça marche sur un Chromebook, ça marche évidemment sur un MacBook ou un ordinateur sur Microsoft, hein. Aucun problème. L'avantage du Chromebook, peut-être par rapport aux deux autres solutions, ça va être, comme tu viens de le dire, Olivier, la sécurité, la durabilité, l'autonomie, l'intégration, comme on l'a dit tout à l'heure avec Alexandra, dans un parc informatique, et puis la simplicité de gestion de ce parc d'ailleurs. Donc, est-ce que vous me dites, Alexandra, est-ce qu'un Chromebook, on peut tout faire avec ou pas, finalement ?
Ben, ça dépend du besoin, j'imagine, mais pour le moment, absolument de mon côté. Donc, j'en vois régulièrement qui arrivent à le faire. On vient de parler de CRM. Moi, personnellement, j'utilise pas de CRM maintenant, mais je l'ai fait par le passé. HubSpot fonctionnait très bien dans Gmail. Pouvait prendre en compte là, les échanges courriels clients et tout. On a parlé de facturation, on a parlé de comptabilité. Donc, j'imagine que ça dépend de ce qu'on fait. Après, ben, il y a aussi les exigences de l'employeur. Je vois encore malheureusement certaines personnes à ma banque utiliser, croyez-le ou non, Internet Explorer parce que le logiciel ne fonctionne qu'avec ce navigateur. Le rendu là, je pense que c'est plus. On a encore des gens qui utilisent des fax, donc ça se peut aussi qu'il y ait des exigences parce que ça ne fonctionne pas. Mais je pense que si la majorité des outils dont on a besoin, que ce soit pour faire des ventes, du marketing, tout se fait. Là, on a nommé pas mal tout ce qu'on a besoin pour gérer une entreprise. Donc, ça se fait si on fait ces choix-là d'outils, bien sûr.
Effectivement, on peut. Après, effectivement, il y a des cas particuliers, peut-être oui. Le traitement d'images ou de choses comme ça qui demandent de très, très grosses ressources.
Exact.
Et encore, avec les Chromebook Plus, peut-être que ça va disparaître. Hein,
non, et puis après, il y a des applicatifs spécifiques métiers où là, effectivement, oui. Bah, s'ils ont été développés dans un environnement Windows ou Apple, bah, ça ne fonctionnera pas. Par contre, si c'est sur Linux ou Android, là, ça marchera. Ou si c'est de l'applicatif web. Donc, il y a des applicatifs métiers où ça ne fonctionnera pas. Mais comme tu le disais, Alexandra, je pense que 95-97% des cas d'usage pourront être couverts par un Chromebook. Des spécificités, tout à l'heure, Dehel nous parlait des logiciels caisse. C'est un problème que je connais pour en avoir vendu dans ma jeunesse. C'est toujours des trucs un peu spécifiques. C'est toujours des petits moutons à cinq pattes. Donc, effectivement, on va trouver des domaines pour lesquels on va être bloqué. Ouais.
Effectivement. Eh bien, écoutez, merci pour cet épisode. Mais avant de nous quitter, vous le savez, hein, maintenant ça devient une coutume. Hein, ça fait 7 ans en fait, ou 8 ans depuis qu'on fait le podcast en fait, qu'on termine nos épisodes par nos coups de cœur. Alors on en a déjà cité beaucoup, Alexandra, forcément. Hein, t'as mis en avant énormément d'applications que tu utilises. Mais je t'ai demandé, comme à l'accoutumée, de nous donner le plus gros coup de cœur que tu as ces temps. Et tu nous as sorti une solution que je trouve juste exceptionnelle. J'étais prêt à te voler le coup de cœur et dire que c'était moi qui l'avais dit. Mais je te laisse la voix. Il est vraiment top pour les créateurs de contenu. En tout cas, c'est vraiment génial.
Ben moi aussi, j'ai un balado et donc je me suis dit comment est-ce que je peux créer du contenu avec le balado parce que par le passé, je mettais que l'audio. Maintenant, j'enregistre moi aussi avec StreamYard, qui est un bel outil aussi qu'on n'a pas nommé, mais qui fonctionne très, très bien sur les Chromebooks aussi. Et là, je me suis dit comment est-ce que je peux exploiter ce contenu-là vidéo pour pouvoir, parce qu'on sait, il faut mettre des choses dans Instagram, mettre des Reels, des sites de YouTube, là, à un moment donné, créer du contenu, c'est un emploi à temps plein. Et j'ai exploré plusieurs outils, mais mon coup de cœur, c'est Opus Clip, qui permet d'importer une vidéo. Et Opus Clip, avec l'intelligence artificielle, bien sûr, fait une sélection de clips, donc de moments dans l'enregistrement, nous fait la retranscription. Et il fait un très, très beau boulot de retranscription. Je le disais avant qu'on commence l'enregistrement, il y a mon nom de famille qui est toujours massacré. Mais mis à part ces petites corrections-là, parce qu'on peut aller corriger, nous propose des clips vidéo. Il va même recadrer et aller sur les personnes qui parlent, nous mettre les personnes une en dessous de l'autre ou autre. Et donc, nous créer des clips. Il nous met aussi un indice selon qu'est-ce qui va être le plus gagnant à mettre en avant, quel mot-clé et tout. Donc, nous génère le tout, on télécharge et on peut avoir du contenu. Donc, on peut faire un contenu comme on vient de faire présentement pour le balado et exploiter des courts extraits de ce contenu-là un peu partout. On vient de sauver des heures et des heures. Ça prend quelques minutes à générer. Puis, on a plein de contenu. Donc, moi, ils ont gagné. Ils m'ont donné un accès gratuit au début, qu'on a accès à toutes les fonctionnalités. C'est fait. C'est mon prochain abonnement. Je viens de sauver des heures de montage, de couper, d'ajouter des retranscriptions. Ouf! Donc, je vais le laisser travailler. Opus Clip ou Opus Pro. Mais je pense que l'outil, c'est Opus Clip.
Ouais. Opus Clip, ouais. Clip Opus Pro, je crois, ou oui. Un truc comme ça. Mais génial, hein, vraiment, franchement, j'ai fait, donc vous l'avez peut-être vu pour ceux qui nous suivent, sur l'épisode qu'on avait fait avec Adrien sur la sécurité sur l'hygiène numérique. Waouh, mais c'est bluffant. J'ai collé le lien de la vidéo YouTube, c'est tout. Voilà, et il y avait quand même une heure de traitement, il est allé chercher la viralité de chacune des parties, il les a découpées, il m'a mis moi en dessous, lui au-dessus. En fait, la personne qui parle est toujours au-dessus, et ça change automatiquement, ça lui fait la retranscription texte en plein milieu. Donc, vous l'avez peut-être vu, j'en ai passé deux comme ça, et c'est les deux qui sont censés être à 99% sur 100 de viralité, et c'est assez étonnant, j'ai adoré. Ils vont aussi avoir... ça dépend si vous avez aimé en tout cas, mais ils vont avoir vos dons, vont aller directement chez eux, je pense. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous soutenir parce que c'est génial. Du coup, moi je vais compléter ton coup de cœur. Alors moi, c'était pas mon coup de cœur, mais je vais le compléter. Je te l'ai dit tout à l'heure, Alexandra, avant le démarrage de l'émission, avec une autre solution qui s'appelle autoscript.fr, qui permet de faire à peu près la même chose. Alors, ça fait pas la même chose au niveau vidéo, mais en fait, tu colles ton lien et il va te créer ton chapitrage automatiquement. Il va te créer ensuite, un deuxième temps, un article à publier autour de ça. Donc, il y a une IA qui vient venir générer du contenu texte. Il va te créer le titre, le contenu, les hashtags pour un bon référencement SEO. Ça va te créer, et c'est ça que j'ai adoré le plus encore, c'est des citations qui ont été identifiées et time-codées. Donc, il va te dire, bah, il sort telle citation et c'est à la 23e minute, 40 secondes, machin. Et ce qui est génial, c'est que bah, du coup, avec ton application, bah, je vais aller chercher la vidéo en lien et j'ai la citation que je peux mettre en plus et j'ai trouvé ça bien. Et pour l'instant, tu peux le poster automatiquement tout ça sur LinkedIn, mais j'imagine que par la suite, il est en construction hein, le site et c'est vraiment génial, j'ai adoré. Donc, je pense que c'est un bon complément, autoscript.fr.
Absolument.
En plus de Opus Pro, de solutions, si vous créez du contenu audio, vidéo, ils vont vous sauvegarder des heures et des heures de traitement. Du coup, bah, je vais laisser ça comme code cœur. Moi, je vais pas donner le mien, je vais te laisser la main, Olivier. Sinon, ça va durer encore des heures.
Alors moi, j'ai honte. Il faut que j'avoue, je dois me confesser. Je n'utilise plus Google comme moteur de recherche. Je suis passé sur Perplexity.
Attends, on va couper ton micro.
Je suis passé sur Perplexity.ai qui est, de mon point de vue, le vrai Google killer. Perplexity AI, c'est quoi ? C'est ni plus ni moins qu'une intelligence artificielle sous forme de chat, comme ChatGPT, comme Copilot, comme tous ceux qu'on a cités, si ce n'est qu'il est connecté à Internet et qu'il est super bien connecté à Internet. C'est-à-dire que vous pouvez lui poser des questions courtes, pas besoin de faire des prompts très compliqués comme dans ChatGPT. Vous lui posez simplement qui est Nicolas de My Chromebook et il vous sort sa fiche LinkedIn, il vous sort tout. C'est absolument incroyable. Et puis, il va vous faire un petit texte, un petit laïus présentant Nico. Enfin bon, j'invente cet exemple, hein, n'essayez pas. Mais le principe est là. Moi, je m'en sers dans mon métier tous les jours maintenant. Je fais des recherches sur une entreprise, bah, voilà, au lieu d'aller chercher dans Google Actu, plutôt que d'aller chercher dans Google tout court, d'aller sur le site de l'entreprise, Perplexity me sort une fiche d'identité avec des liens systématiquement, c'est-à-dire que tout est sourcé dans Perplexity. Quand il vous dit quelque chose, vous avez toujours un petit rond avec un numéro, vous cliquez dessus, ça vous renvoie sur la page web où il est allé chercher l'info. Et quand il va chercher des infos, c'est sur 30, 40 pages web, c'est-à-dire qu'il va vraiment creuser le sujet à fond et vous donner l'essence même de tout ce qu'il a pu lire sur le sujet pour lequel vous lui posez la question. Bref, c'est un vrai coup de cœur pour le coup. Alors, on peut le faire tourner avec ChatGPT, on peut le faire tourner avec Claude, on peut le faire tourner avec Mistral aussi, en termes de moteur de rendu, en termes de moteur d'intelligence artificielle. Essayez vraiment, c'est l'adopter. Il est un peu cher, c'est-à-dire que c'est le même prix que ChatGPT. Après, si on n'utilise pas la fonction, alors qui s'appelle Copilot, c'est pas le Copilot de chez Microsoft, il y a une fonction qui s'appelle Copilot, c'est cette fonction qui va chercher sur Internet justement. Si vous la désactivez, vous êtes avec un ChatGPT Pro avec la formule payante, donc rien d'innovant. Dès que vous activez cette fonction Copilot, ça devient un outil incroyable et donc on est sur le même prix que ChatGPT. L'un pouvant remplacer l'autre très efficacement. Après, tout dépend des habitudes. Mais voilà, enfin, vraiment une valeur ajoutée énorme de mon point de vue. Et puis voilà, en gros, pourquoi c'est mon coup de cœur.
Écoute, effectivement, j'ai testé, j'ai cherché qui je suis, j'ai mis mon nom, mon prénom, évidemment, c'était plus simple, hein. Et effectivement, c'est assez intéressant, il me sort des trucs que je sais, heureusement, de moi, et qui sont vrais. et qui sont vrais, donc c'est assez intéressant parce que je suis plutôt personne en fait sur internet et le fait qu'il aille chercher toutes ces informations, donc là il est allé taper sur LinkedIn, l'internaute, Amazon, il a vu que j'ai écrit des livres, c'est assez amusant, c'est assez intéressant. Et il a vu que j'ai fait de la photo aussi, il est allé chercher des photos de moi, enfin pas de moi, des photos que j'ai fait moi parce que je me prends pas en photo. Il explique que je m'occupe de My Chromebook. MicroBook et il donne l'expertise autour de MicroBook. C'est vraiment génial. Et il a additionné mes activités en me disant qu'en fait, je suis un spécialiste de la vente depuis plus de 20 ans. Donc oui, il a allé chercher plusieurs activités. Il a dit, ah bah toi, ça doit être de la vente. Alors, il a de l'expérience dans la vente et de la communication. Donc, plutôt intéressant. Non, vraiment bien. Bon truc. Je prends. Merci beaucoup. Merci Alexandra d'être intervenue encore une fois. J'espère que tu t'es bien amusé avec nous et que tu reviendras encore une fois discuter avec nous. Et merci Olivier également de ta présence et de vos préparatifs à vous deux. Merci à toute la communauté qui nous a suivis. N'oubliez pas, à la fin de la vidéo, laissez un petit commentaire sous la vidéo YouTube si vous y êtes. Ça prend quelques secondes. Ne serait-ce qu'un petit merci, c'était cool. Ou bof, j'ai pas aimé parce que on voit plus le logo MicroBook au-dessus de Nicolas, par exemple. Oui, j'ai changé de cam. Par exemple, n'hésitez pas. Tout est bon à prendre tant que c'est constructif. Merci en tout cas. Je vous souhaite une agréable soirée, une bonne journée. Et puis, on se revoit de toute façon dans 15 jours pour un prochain épisode du CKB Show. Évidemment, Alexandra et Olivier, je mettrai tous vos liens dans les notes de l'émission pour qu'on puisse aller échanger avec vous si on le souhaite. Passez une bonne soirée. À bientôt. Ciao.
Bye-bye. Merci beaucoup. Au revoir. Tout le monde.